Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
On va parler à présent de l'Institut Pasteur Weizmann, dont Radio Shalom est partenaire, et nous sommes en ligne avec Dov Zera. Dov, bonsoir.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir à vous. Pour nous, l'Institut Pasteur Weizmann, c'est beaucoup de recherche médicale, mais c'est un institut très important, l'Institut Weizmann à Rehovot, qui intervient dans tous les domaines. Il se trouve que vous, par exemple, vous allez donner une conférence sur l'économie d'Israël.
L'économie face d'Israël. À la guerre.
Face à la guerre. J'ai lu une partie du rapport, c'est impressionnant. On vous reconnaît
oui.
Là, il y a du travail, et avec précision, et qui couvre tous les domaines. On va d'abord commencer, si vous voulez, avec le coût de la guerre. Le coût de la guerre, vous dites, c'est peut-être la guerre qui a coûté le plus cher à Israël.
C'est la guerre la plus coûteuse d'Israël.
Mais pourquoi ?
C'est 200 milliards. C'est 200 milliards. Donnons d'abord les chiffres globaux, et après on va rentrer dans les explications, si vous permettez,
mmh,
Bernard.
Mmh.
C'est 200 milliards de shekels, donc 50 milliards d'euros. C'est 10% du PIB. C'est 10% du PIB. C'est énorme. La précédente guerre en termes de coûts, c'était celle de 2006 au Liban. Elle avait coûté 1% du PIB. Donc on est à 10 fois plus. Et les chiffres que je vous donne, ce sont des chiffres du ministère des Finances basés sur des estimations, estimant, considérant que la guerre irait jusqu'à avril. D'accord ?
Mmh.
Donc ce sont des chiffres qui sont sur une période assez longue. Bon, la guerre coûte parce que, d'abord, du jour au lendemain, l'économie israélienne a perdu environ 600 000 personnes. Les réservistes, 360 000 réservistes qui ont été appelés. Les travailleurs palestiniens, environ 100, 150 000. Qui ne venaient plus en Israël, et notamment, bien évidemment, les Gazaouis. Les étrangers, vous savez que les étrangers ont été touchés, notamment, on a l'exemple des Thaïlandais qui ont eu des morts, des otages, qui sont retournés dans leur pays. Bon, depuis, ils reviennent. Mais au total, 600 000 personnes ont été retirées de la population active israélienne, soit 14% de la population active. Et il y a énormément de secteurs qui sont impactés, par exemple l'agriculture. Vous en avez parlé, je le sais, beaucoup de volontaires sont allés cueillir, faire la cueillette. Moi-même, j'ai eu l'occasion de le faire. Et c'est assez extraordinaire, la mobilisation du pays pour sauver les récoltes. Sauver les récoltes et également faire en sorte qu'il y ait des semis et que dans 6 mois, 1 an, il y ait à nouveau des
nouvelles récoltes.
Exactement.
Ouais.
Voilà, donc c'est une économie qui coûte cher en termes de coûts. Et puis, pour la première fois aussi, les dépenses civiles sont aussi importantes pratiquement que les dépenses militaires. Les dépenses civiles, notamment les 280 000 personnes qu'il a fallu évacuer de la région de Gaza et du nord du pays, il a fallu les héberger. Alors maintenant, ils retournent progressivement dans leur maison, mais pas tellement dans le nord. C'est principalement autour de la bande de Gaza, dans certaines localités de la bande de Gaza, villes ou localités autour de la bande de Gaza, mais ils sont encore hébergés. Donc il a fallu les loger. Voilà, c'est 280 000 personnes, dont 100 000...
Alors, ça fait énormément de choses que vous nous dites à la fois. D'abord,
oui,
première chose, non, au contraire, ça fait énormément de choses. D'abord, il faut savoir qu'effectivement, ces populations qui ont été hébergées, ça coûte une fortune. Moi, comme vous, je les ai vues dans des grands hôtels à Tel Aviv, parce qu'on les met partout où on peut les mettre. Je les ai vus sur la Taïalette, au Crown Plaza, c'est des gens qui viennent de Sderot. Mais il n'y a personne qui rentre.
Même au Danakadia, à Erskiapitoa. Vous ne pouvez plus aller prendre un café au Danakadia parce qu'il est complètement réservé pour les personnes du Sud.
Ce qui est très beau d'ailleurs, parce qu'on voit, c'est des Juifs qui viennent des Juifs orientaux,
c'est
qui ne sont pas là pour être.
C'est extraordinaire.
Mais, et ça coûte une fortune parce que c'est l'État qui paye les chambres. Eux, évidemment, ils ne payent rien. Moi, j'ai demandé une fois à une de ces personnes, il m'a dit non, c'est la mairie qui nous dit où on va.
Oui.
Donc ça coûte ça, c'est chaque jour qui passe, c'est quoi, c'est qui paye
oui.
Par exemple, un homme qui va faire ses périodes de réserve, il ne travaille pas, il a abandonné, il est
bien
payé
entendu,
comment? Il est payé
il
avec
est payé...
une solde de soldat ou il touche son salaire?
Oui. Non, 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 il est payé avec une solde de soldat et elle vient d'être augmentée là dernièrement.
Mmh, sur la décision de Smotrich qui a réussi
oui.
à avoir la majorité
oui.
autour de ça. Là, vous avez estimé, vous, dans votre étude, à combien la perte du fait que les gens ne vont pas travailler?
Alors, je vais être un tout petit peu technique. On attend une croissance sur 2023 de 2,3%. C'est légèrement en retrait. mais il faut, et pour 2024, une croissance, une augmentation du PIB de 1,5. Il faut savoir que, grosso modo, l'économie Israël a un potentiel de croissance de 4,5%, donc sur ces deux années. 2023 et 2024, l'économie Israël va perdre 5% du PIB, soit 25 milliards d'euros. Ces 25 milliards d'euros se rajoutent aux 50 du coût. Ici, on est dans une perte potentielle, une perte d'opportunité. Ce n'est pas un coût immédiat avec décaissement. Vous voyez, vous me suivez ?
Oui, c'est ce qu'on appelle le manque à gagner, nous, dans nos familles. On
Exactement.
Parle comme ça.
Exactement.
Non, mais c'est vrai, nous, on ne dirige pas un État. Mais nous, on dit, voilà, bon, il y a le manque à gagner pour ce mois-ci, c'est ça.
Il y a un manque à gagner. Voilà. Donc, il y a 50 milliards d'euros de dépenses qu'il a fallu décaisser, et notamment, c'est la raison pour laquelle il y a eu un budget supplémentaire qui a été voté dernièrement et qui a soulevé quelques polémiques, mais parce que, bon, de toute façon, ce budget supplémentaire, il ne couvre pas tout le coût de la guerre. Mais donc, il y a 50 milliards de coûts avec des décaissements. Vous voyez, par exemple, il y a le renforcement des dispositifs de sécurité civile, les mesures en faveur des agriculteurs, aux garderies, l'indemnisation des institutions culturelles qui sont à l'arrêt, sans oublier le filet de sécurité pour le transport maritime, l'aviation. Le transport maritime, surtout avec ce qui se passe au large du Yémen dans le détroit de Bab el-Mandeb, est à l'arrêt. Et là, t'es complètement à l'arrêt. Même Ashdod est complètement à l'arrêt. D'ailleurs, il y a des embouteillages monstres au port de Haïfa. Donc tout ça, si vous voulez, ce coût-là, c'est 50 milliards et le manque à gagner de 25.
Alors, en un mot, commençant, il y a deux possibilités de voir les choses. Moi, je ne sais absolument pas ce que vous allez répondre. Soit vous nous dites c'est le marasme, parce que franchement, Sderot, hein, vous nous dites que les gens commencent à rentrer, Sderot, c'est toujours une ville fantôme. Il n'y a pas un magasin ouvert. Des immeubles entiers, j'y suis allé, les rideaux, les volets fermés, il n'y a personne.
Oui, oui.
Alors, première solution, c'est le marasme. Mais on nous a imposé la guerre. Deuxième solution, la société israélienne, c'est une société qui a une telle vitalité, qui notamment base 30% de ses revenus sur la high-tech et qui a donc des capacités de rebond qui sont exceptionnelles. Et la société israélienne va s'en sortir. Donc là, on est en train de prendre un passeport pour 10 ans, je ne sais pas combien d'ailleurs, c'est vous qui me répondez, de marasme économique, et voilà, il va bien falloir payer tout ça. Ou bien non, la société israélienne est capable de rebondir très vite.
Bon, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que au 6 octobre, la situation économique, macroéconomique d'Israël était bonne, sans rentrer dans le détail et vous saouler avec des chiffres. Elle était quelque peu écornée parce que le shekel avait beaucoup baissé et l'high-tech était en déprime. Tout cela à cause de la réforme judiciaire. La réforme judiciaire a écorné le potentiel économique israélien. Mais néanmoins, le point de départ, la situation de départ était assez positive et permet à Israël d'absorber le choc. À telle enseigne, je dirais, il y a trois éléments, bon, pour en donner beaucoup. Le change, il est passé en un an, grosso modo, je prends le change en euros parce que c'est ce qui intéresse aux auditeurs, il est passé grosso modo de 1 euro pour 3,30 shekels à 4,13, 4,14 et il est revenu depuis peu à 4. Donc le change, après s'être fortement dégradé à cause des effets de la réforme judiciaire, mais également à cause de la guerre, aujourd'hui il s'est rétabli, il s'est largement rétabli. Entre autres parce que les exportations israéliennes tiennent. Entre autres parce que l'inflation est contenue, on est à 3,3% d'inflation. Et d'ailleurs, d'ores et déjà, on sait que la Banque centrale va diminuer les taux à la rentrée. Deuxième élément important, c'est que Israël, pour financer tout cela, vient de lancer un emprunt de 4 milliards de dollars. Il a été souscrit sans aucun problème. Donc, la signature de l'État d'Israël est intacte. Et troisième élément, il y a un point qui est loin d'être négligeable, c'est que pour compenser ces baisses de main-d'œuvre, ils sont en train de signer toute une série d'accords à droite et à gauche. Des gens du Malawi sont en train de venir, ils sont en train de négocier avec le gouvernement indien l'arrivée de main-d'œuvre indienne, et il va y avoir beaucoup d'étrangers qui vont venir en Israël remplacer ceux qui sont partis. Mais aussi,
donc c'est affaire d'activité ?
C'est plus que créateur d'activité, Bernard, parce que ce qu'il faut savoir, quand vous avez un travailleur palestinien, il vient le matin, il repart le soir. Quand vous avez un Indien qui vient travailler en Israël ou en Thaïlande, il faut le loger, il faut trouver éventuellement les classes pour les enfants, il faut les services sociaux, les services hospitaliers. Il y a toute une activité qui va se créer, qui va repartir grâce à cet apport de main-d'œuvre étrangère. Donc je pense que la situation est difficile. Bon, bien entendu, dans tout ça, on n'a pas abordé les pertes humaines, hein, qui sont elles aussi exceptionnelles dans l'histoire des guerres d'Israël. Dans l'histoire des guerres d'Israël, il faut remonter à 73 ou 48-49, hein, pour avoir de tels niveaux de morts et de blessés. D'accord ? Même la seconde intifada, il y avait un peu plus de 1000 morts et 5000 blessés. Donc on a déjà largement dépassé. Donc, sans, bon, et là, je dirais les pertes humaines, bon, le coup, c'est, voilà, bon, je dirais no comment. Donc voilà, donc Israël va pouvoir, parce qu'ils étaient dans une bonne situation de départ, l'endettement du budget israélien, c'est 60% du PIB. En France, on aurait aimé avoir 60% du PIB d'endettement. Donc voilà, la situation était bonne, malgré les quelques problèmes occasionnés par la réforme judiciaire. Ça permet d'absorber le choc. Et il y a des perspectives de rebond. Mais ça sera pour 2025, hein, pas avant 2025.
Mais non, mais Dov Zera, vous nous donnez des nouvelles quand même qui sont très bonnes. On nage quand même dans les mauvaises nouvelles depuis
oui,
quand même plusieurs
oui,
semaines. Là, vous nous dites, oui. Non, bah, ça peut reprendre, c'est une économie qui est forte, qui a de la vitalité, qui est très peu endettée. Vous voyez que je vous écoute, qu'il y a des perspectives et qu'il y a... J'aurais une dernière question. L'aide américaine dans tout ça, c'est quoi ? C'est que de l'armement ou... Parce
oui.
qu'il y a tout un... Oui, c'est que de l'armement ?
C'est 14 milliards de dollars. Habituellement, bon an, mal an, les Américains donnaient 4 milliards et demi, et c'est uniquement pour l'achat de matériel américain, de produits américains.
Ah oui, en plus de ça, oui. Ils donnent de l'argent, mais il faut acheter chez eux.
C'est un classique, hein.
Ouais, ouais. J'ai appris ça, à l'université, c'était pas hier. Déjà, dans les... Ouais. C'est les années 80. On te donne un chèque, mais on te prévient, t'achètes chez nous.
Ouais. Non, mais c'est un classique. C'est un classique. C'est pas s'il y a rien de et puis à ce niveau de montant, ça, l'essentiel c'est que les livraisons arrivent. Or, il y a eu dernièrement quelques retards dans les livraisons à cause de problèmes administratifs. A-t-on fini par nous dire
oui,
problèmes
oui.
administratifs oh, oui, Je pense oui. que vous l'avez relaté dans les informations de Radio Shalom.
Yoav Galant, il a dit, je suis pas sûr que c'est que technique, si vous voulez mon avis. Et comme par hasard, dans 15 jours, on apprend que les Américains avaient demandé qu'on rentre dans une troisième phase et on y arrive. Dov Zera, merci pour... Alors, je crois qu'on va...
Merci
si on veut
vous.
En savoir plus, on va pouvoir vous retrouver à Levallois-Perret. Vous allez
Exactement.
Donner une grande conférence sur l'économie israélienne en guerre. C'est le 9.
Le 9 janvier.
Si je ne me trompe pas, voilà, c'est ça, c'est un mardi.
Exactement.
Mardi 9, là, il y a encore une semaine...
Au centre communautaire de Levallois-Perret, région Baudin.
Voilà, formidable. Donc, vous serez là-bas. Bon, c'est en soirée, je crois que c'est vers 20h. Je voudrais aussi signaler, on vient d'entendre encore là, en vous écoutant, l'excellence. Et je voudrais aussi donc signaler l'importance qu'il y a d'aider l'Institut Pasteur Weizmann. J'avais demandé au président, au directeur à Paris, ou président à Paris de l'Institut Pasteur Weizmann de venir nous dire un mot par modestie. Il a pas fait. Mais je pense que c'est très important de souligner, d'ailleurs, je pense que ça rentrerait très facilement dans votre exposé, Dov Zera, l'excellence de toutes ces universités israéliennes qui font un travail, l'université...
Exceptionnel, je peux vous dire, si quelqu'un va en Israël et a envie de visiter Rehovot, Pasteur Weizmann, Baruch Abba, c'est exceptionnel de faire la visite à Rehovot, c'est fantastique ce qui s'y passe, C'est fantastique ce qui se passe. L'ordinateur quantique, les armes au laser, Vous savez, ils ont, si je puis abuser d'un instant, le dôme de fer coûte très cher. Mais ils sont en train de développer une recherche pour qu'en fait, au lieu d'envoyer un missile, on utilise le laser. Je n'ai pas besoin de vous dire, on va passer d'un coup de 100 à 10. C'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Et pourvu que ça arrive le plus vite possible. Et d'ailleurs, il y a, semble-t-il, certaines expérimentations qui sont faites. Visitez, donnez bien entendu à Pasteur Weizmann, mais visitez, venez visiter Arérovol. On en ressort gonflé à l'hélium.
Dov Zera, merci et on viendra vous
merci
voir mardi 9 janvier à Levallois-Perret au centre Bourdet. Vous nous avez dit, excusez-moi, je prononce
Jean
ça.
Jean Baudin.
Voilà, je me disais, je prononce ça mal. Moi.
Jean Baudin.
Et bonsoir à vous.
Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM.